France Musique. Musique Matin. Saskia Deville. France Musique.
Samedi 24 octobre, soyez les bienvenus sur France Musique. David Travailleur est à la réalisation, Maëlle Larfassor et Audrey Guélil à la technique. Soyez les bienvenus dans cette émission. L'actualité de la musique, l'écologie, le chant choral prennent toute leur place. D'ici 9h, le claveciniste Justin Taylor partagera un croissant et une Madeleine de Proust avec nous. À 8h, dans sa chronique Battement de cœur, Marc-Olivier Dupin posera cette question. Une œuvre doit-elle nécessairement être compliquée pour être un chef-d'œuvre? Il revisitera pour répondre à cela quelques tubes du répertoire choral. À 8h15, notre reportage. Sophie Anastasio nous fera découvrir le livre de la jungle en version musicale et écologique. À 8h30, notre invitée sera Fanny Rère-Ménard, luthière et vice-présidente de la chambre syndicale de la facture instrumentale. On fera un point sur la lutherie écologique et éthique. Et puis à 8h50, Christophe Chassol nous dira tout de Alex North, grand compositeur de musique de film des années 50. Très très bon réveil à notre écoute. Un délicieux récital en solo pour la soprano Christiane Karg sur ce nouvel album qui plonge dans l'intime du répertoire de Gustav Mahler avec notamment les leaders Le Corps Merveilleux de l'Enfant dont est extrait la petite légende du Rhin que nous écoutions à l'instant. Il est question d'un anneau d'or jeté dans le Rhin. Christiane Karg accompagnée par Malcolm Martineau. C'est une nouveauté parue chez Harmonia Mundi que nous écoutions ce matin pour démarrer cette émission. Et nous allons poursuivre à 7h34 avec Antonio Vivaldi qui excellait dans le genre du concerto. Où trouvait-il son inspiration? Eh bien, chez les jeunes musiciennes qu'il côtoyait à l'orphelinat à Venise, où il était professeur de violon. Il composait donc pour ses élèves, des élèves pour qui la musique jouait un rôle essentiel. Elle donnait des concerts dans tous les théâtres de la ville. Et vous allez l'entendre, c'est une musique très vivante, très contrastée, très dansante aussi. On va écouter deux mouvements du concerto pour violon, Riems 387 de Vivaldi, donc avec Julien Chauvin et le concert de la loge. concerto pour violon Rium 387 en si mineur d'Antonio Vivaldi, dont nous écoutions le deuxième mouvement basé sur l'un des airs les plus extraordinaires et les plus intenses des opéras de Vivaldi, Vedrò con mio diletto, extrait de Il Giustino, et puis ce troisième mouvement final enjoué, joué par Julien Chauvin, Le concert de la loge, un disque paru chez Naïve.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Et d'ici quelques mois, nous fêterons le centenaire de la naissance d'Astor Piazzolla. Alors on s'attend à voir fleurir un certain nombre de sorties discographiques dédiées à cet extraordinaire compositeur argentin. Eh bien c'est le cas de ce coffret anniversaire à paraître chez Harmonia Mundi début novembre. 100 ans pour l'immortalité. Il réunit en 3 disques l'essentiel de la production de Piazzolla, entre héritage classique et tango traditionnel. Le tout joué par des artistes comme Pablo Marquez, Tabea Zimmerman, Javier Perianes, Bernarda Fink, encore Juan José Mussolini Jr. En voici un petit avant-goût à 7h41. Oblivion d'Astor Piazzolla, interprété ici par Cécile Daroux, Leonardo Sanchez, Juan José Mussolini Jr. et Maurizio Angarita. Un extrait de ce coffret à paraître chez Harmonia Mundi d'ici quelques jours, en partenariat avec France Musique. Et c'est l'heure du choix musical d'un artiste, à l'heure du petit déjeuner. Bonjour Justin Taylor.
Bonjour Saskia, bonjour à tous.
Quel plaisir de vous avoir avec nous ce matin. Vous êtes pianofortiste, claveciniste, comment allez-vous?
Ça va, merci beaucoup. Et vous-même?
mais formidablement bien, ravi d'être avec vous. Et de parler de ce week-end un petit peu particulier à Radio France. Vous êtes l'un des solistes participants à ce week-end Bach qui s'est ouvert hier ici à la Maison de la Radio. L'intégrale des concertos pour clavier de Jean-Sébastien Bach à l'auditorium en 3 concerts. Justin, quelle place ce compositeur occupe-t-il dans votre vie de musicien?
Je crois que c'est un peu un essentiel auquel il faut toujours revenir. C'est vraiment une musique qui nous élève. C'est marrant parce que hier on avait prévu 6 heures de répétition comme d'habitude, et puis en fait on n'arrivait pas à s'arrêter. On a dépassé une heure et demie, parce que voilà, c'est une musique qui nous fait du bien, qui est évidemment extrêmement exigeante, mais qui nous apprend beaucoup, c'est un dialogue permanent, je dirais, entre les classinistes et l'orchestre, entre l'orchestre et le public, évidemment, entre les musiciens et le public. Et voilà, on en a évidemment d'autant plus besoin aujourd'hui. Et donc c'est vraiment formidable que Radio France ait pu organiser ce week-end et surtout le maintenir.
Une musique qu'on redécouvre, Justin Taylor?
Oui, sans cesse. En fait, c'est marrant parce que je me disais, en tant que classiniste, on n'a pas souvent l'habitude de jouer avec d'autres classinistes. Souvent, c'est un métier un peu pas forcément solitaire, parce qu'on fait beaucoup de musique de chambre, évidemment. Mais en tout cas, on en fait peu avec d'autres classinistes. Et donc là, par exemple, je fais un double concerto, un triple concerto, un quadruple concerto pour clavecin. Donc c'est vraiment la fête de la corde pincée là ce week-end. Et voilà, et c'est extrêmement enrichissant de découvrir d'autres clavecinistes, de jouer avec eux, de s'apprivoiser un peu, hein, parce que c'est quand même ça aussi, faire de la musique. Voilà, essayer rapidement de comprendre l'esthétique de chacun, ses envies, ses préférences, et puis comment on peut communiquer ensemble à travers ses œuvres. Et il y en a beaucoup que moi personnellement j'avais jamais joué, donc voilà,
c'est l'occasion de créer des rencontres, effectivement, avec ce programme, hein, des concertos à 1, 2, 3, 4 claviers tout au long du week-end ici à la Maison de la Radio, avec, et vous parliez de ces clavecinistes, Justin Taylor, il y a Caroline Serrazi, Céline Frisch, Béatrice Martin et Frédéric Haas qui jouent le jeu également, et puis de merveilleux ensembles, hein. Hier on a pu entendre le Café Zimmermann, ce soir ce sera l'ensemble Ossonia à 18h30 et demain 16h, eh bien votre concert, votre ensemble à vous, Justin Taylor, des concerts que vous pouvez venir, chers auditeurs, écouter ici à la Maison de la Radio, bien sûr, mais que vous pouvez aussi suivre à 20h, puisque les concerts sont diffusés à 20h sur France Musique. Ce sera ce soir, notamment avec Judith Chen. Vous avez énormément de projets à venir, Justin Taylor. Hein, vous m'avez envoyé, quand on a échangé et préparé cette séquence, la liste de vos engagements, du moins de vos projets, des mois à venir bien bien chargés.
Effectivement, oui, j'ai pas mal de choses, et ouais, évidemment, je m'en réjouis. Je pense que aussi c'est une période assez particulière. Évidemment, on en parle beaucoup. Tout ce qui semblait, totalement fixe, immuable, maintenant, on ne sait pas si la semaine prochaine, si dans 2 semaines, le concert sera maintenu, dans quelles conditions, à quelle heure, avec quel public. Donc, finalement, dans tout ça, moi aussi, ça me permet de peut-être de profiter du moment présent. Voilà, a priori, demain, le concert aura lieu, et évidemment, on s'en réjouit, et c'est vrai qu'il y a comme une espèce de, comment dire, d'abîme entre, voilà, les projets à un peu plus long terme qu'on prépare en avance, les enregistrements, les tournées à l'étranger, et puis voilà, ces projets demain, après-demain.
Ça va changer un petit peu votre état d'esprit avant de monter sur scène?
Ben oui, on a cette chance finalement qu'on redécouvre de faire un concert dans des conditions quasiment normales. On en a été privé pendant longtemps. Il y a quand même cette incertitude qui plane autour de tout ça. Et voilà, là, pouvoir partager avec mes amis formidables du concert et puis le classiniste invité, c'est vrai que c'est quand même une chance extraordinaire. Et je voulais juste aussi rajouter, il y a Olivier Beaumont
Oui, absolument, absolument.
Dans les casinos, voilà.
Vous faites bien de le citer.
Au complet.
Bien évidemment. Merci Justin. Alors parmi vos projets à venir, je pense à cet enregistrement d'un nouveau disque autour de la famille Rameau. Ça, ce sera dans quelques jours, début novembre. Et puis deux dates de concert dans l'immédiat. L'Auditorium du Louvre, ce sera le 28 novembre avec votre consort. Le 4 décembre, Salle Gaveau avec la merveilleuse Eva Zajcik à vos côtés. Toujours avec le consort. Et puis, on vous souhaite une tournée au Japon. Vos débuts au Japon, ce sera début janvier. Justin Taylor, allez, un petit mot sur votre choix musical. Qu'est-ce que vous avez choisi de nous faire entendre ce matin?
Alors, j'ai choisi de vous faire entendre du violon solo. Voilà, c'est vrai qu'en ce moment, avec le Weekend Back, je travaille beaucoup avec les cordes. Donc, c'est le moment, c'est une musique très appropriée au lever de soleil. Une musique anglaise d'un compositeur pas très connu, le fils Nicolas Matéis. Et puis, interprétée par un violoniste que j'aime énormément et avec qui j'ai la chance de jouer très souvent, donc voilà, c'était l'occasion parfaite pour passer son disque qui sort dans quelques jours, je crois.
Et ce violoniste, c'était Tim Langlois de Swart, oui, sorti en novembre en partenariat avec France Musique. Très bon choix, Justin Taylor, merci beaucoup. On l'écoute, bon succès pour la suite et à très bientôt sur France Musique. Thank you. La fantaisie en la mineur de Nicolas Matéis, interprétée par Théotime Langlois de Swart, un extrait de ce disque à paraître en novembre chez Harmonia Mundi en partenariat avec France Musique. Et si vous aimez le cinéma et le ballet, eh bien c'est à vous que je m'adresse ce matin puisque je vous offre des places pour aller voir au cinéma La Dame aux Camélias, ballet du chorégraphe américain John Neumeyer, interprété par les étoiles du Bolshoï sur une musique de Frédéric Chopin. Je vous offre donc deux places pour aller assister à cette retransmission sur grand écran. Pour tenter votre chance, rendez-vous sur francemusique.fr, sur la page de l'émission Musique Matin. Vous cliquez sur « Contactez-nous » et vous laissez vos coordonnées et puis la bonne réponse à la question qui va suivre. Et vous recevrez peut-être deux tickets de cinéma dans votre boîte aux lettres d'ici quelques jours. Alors ce matin, je vous demande de deviner le nom du pays où se trouve le théâtre du Bolshoï où sera dansé ce ballet. Est-ce la Belgique, la Martinique ou bien la Russie? Votre réponse sur francemusique.fr. Bonne chance à vous. Le roman La Dame aux Camélias d'Alexandre Dumas-Fils qui a inspiré un opéra à Giuseppe Verdi. On écoutait ici le prélude de la Traviata avec Carlo Rizzi à la direction de l'Orchestre Philharmonique de Vienne.
The next stop is 42nd Street.
Come here, Vinny. En 1995, le génial réalisateur de La Panthère Rose, Black Edwards, réalisait son rêve. Créer une comédie musicale à Broadway pour sa femme, Julie Andrews. Ça sera Victor, Victoria, adapté de son propre film. Une aventure chaotique et douloureuse créée il y a 25 ans, jour pour jour. Victor Victoria, c'est dimanche à 13h sur la 42e rue de France Musique, à retrouver en podcast sur l'application Radio France.
Musique.
France Musique.
Vous allez là.
Très bon réveil à notre écoute, il est 8h sur France Musique. C'est l'heure de la chronique battement de cœur de Marc-Olivier Dupin. Bonjour Marc-Olivier.
Bonjour Saskia.
Et aujourd'hui, vous nous proposez des chefs-d'œuvre du répertoire choral, renaissance, baroque ou classique, qui ne sont pas inaccessibles techniquement.
Oui, en effet, une écriture vocale simple n'empêche pas de composer des merveilles, de même que la complexité ne garantit pas toujours le chef-d'œuvre. Alors, Belle qui tient ma vie en est un exemple.
Si chaque partie vocale est simple, Marc-Olivier, qu'est-ce qui fait la beauté de telle pièce ?
Alors, la beauté est difficile à expliquer de façon générale, mais ce qu'on peut dire tout de même, c'est que concrètement, l'harmonie, c'est-à-dire la façon d'agencer les voix et d'utiliser de beaux accords y contribue, mais aussi l'organisation de la phrase musicale, comme dans la poésie en général, c'est-à-dire le rythme de la phrase, et puis l'atmosphère, comme aurait dit Arletty, ou le sentiment qu'évoquait Jouvet dans ses cours de théâtre. Et pour cela, il n'est pas obligatoire d'exhiber un arsenal compositionnel démesuré. On a un autre exemple dans les grands tubes du répertoire choral, avec cette œuvre sublime de Mozart, qui est aussi accessible à des chœurs amateurs, l'Ave Verum.
Et quel est l'intérêt pour un chœur de chanter ces tubes du répertoire choral ?
Alors, ces pièces semblent très simples à réaliser, parce que chaque partie vocale est assez linéaire, il n'y a pas de grandes difficultés vocales ou solfégiques, les rythmes sont simples, mais il n'en demeure pas moins qu'elles permettent un travail essentiel sur plan choral, c'est-à-dire la recherche du son, de la qualité du son, de l'équilibre sonore entre les quatre voix, l'écoute mutuelle, qui est une chose qui faut vraiment développer, travailler, apprendre, et puis la conduite mélodique, bref, tous les fondements de la technique chorale. Et par ailleurs, au risque d'être naïf, il faut redire l'extraordinaire motivation que procure la beauté d'une heure, que ce soit... Pour un enfant ou un adulte, il est important d'aller toujours à la rencontre du chef-d'œuvre, c'est le meilleur outil pédagogique. Alors il y a des œuvres qui semblent simples et compliquées à la fois, mais qui sont des chefs-d'œuvre, et là la complexité n'empêche pas le chef-d'œuvre. On peut par exemple évoquer un motet de Bach, Jesu mein Freund, avec cette chose extraordinaire, Gute Nacht.
que de beauté. Merci beaucoup Marc-Olivier Dupin pour cette chronique qu'on réécoute sur francemusique.fr. On vous retrouve la semaine prochaine. Marc-Olivier, je vous souhaite un très très bon week-end.
À vous aussi Saskia.
L'archet à la fois vif et voluptueux de cette extraordinaire musicienne Janine Jensen, accompagnée ici par l'orchestre de chambre Mahler, Daniel Harding à la direction. On écoutait le scherzo, deuxième mouvement du souvenir d'un lieu cher de Tchaïkovski. 8h01, une icône du piano, cette fois une digne héritière de l'école russe nous accompagne ce matin. Elisabeth Léonskaya dans de la musique française, voici la plus collante de Claude Debussy. La Puisqueland Valse de Claude Debussy, nous écoutions Elisabeth Léonskaya. Il est 8h14. Et le livre de la jungle en version musicale et écologique, c'est ce que propose le Théâtre des Variétés à Paris jusqu'au mois de février prochain. Retrouvez Mowgli, Bagheera et Balou sur scène pour une comédie musicale familiale qui prône le respect de la nature et de l'environnement. C'est un reportage signé Sophie Anastasio.
Mais oui, dans quelques minutes sur scène, il y aura des éléphants, des singes, mais aussi Ka le serpent et Bagheera la panthère. Depuis 4 ans, au Théâtre des Variétés se joue la comédie musicale Le Livre de la Jungle, une adaptation de l'œuvre de Kipling, mise en scène par Ned Grugic.
L'idée, c'était de faire revenir, je dirais, Le Livre de la Jungle sur scène. Et puis, le prisme qui a été choisi par l'auteur, Igor de Chaillet, c'est vraiment de faire Le Livre de la Jungle par le prisme de l'écologie, ce qui est tout à fait juste, puisque ça se passe dans la jungle, qu'on y parle de nature, qu'on confronte... l'esprit primaire à l'esprit de la civilisation. Je dirais que là, on est dans un spectacle à la fois culturel, citoyen et écologique. Donc c'est une belle équation, je trouve.
Apprends-moi à aller jusqu'au bout. Apprends-moi tout seul, envers et contre tout. Apprends-moi à faire les bons choix.
Qui dit nouvelle adaptation, dit nouveau dialogue et nouvelle chanson. Ce spectacle met en valeur le personnage de Mowgli et sa quête initiatique de l'enfance vers le début de l'âge adulte. Il est interprété par Tom Almodar.
Effectivement, sur ce spectacle, il y a une réécriture, mais nous, on est beaucoup plus basé sur le roman de Kipling que sur l'histoire que tout le monde connaît de Disney. Donc on s'est basé vraiment sur cette écriture-là et en rajoutant effectivement ce côté écologique. Et du coup, dans notre version à nous du Livre de la Jungle, on va suivre le parcours initiatique de Mowgli. Mais finalement, en fait, on va se rendre compte à la fin qu'il va ni rentrer chez les hommes, ni finalement rester définitivement dans la jungle. Mais il va jongler un peu entre les deux. Il va essayer vraiment de créer une fusion entre la nature, les animaux et entre la civilisation humaine pour réussir à vivre tous ensemble dans une harmonie, dans une belle harmonie.
Tu te foulais. Tous en rang, nous marchons contre la déforestation.
L'histoire reste la même, Shere Khan veut croquer le petit dôme et avoir le secret du feu, mais chaque personnage est revisité. Les éléphants marchent contre la déforestation, Balou est le garant de la nature, il mange bio et roule à vélo. Quant aux méchants, comme les singes par exemple, ce sont des ennemis de la cause écologique.
C'est des personnages qui vivent que pour eux, donc qui ne se soucient pas des autres, donc qui ne se soucient évidemment pas de la planète, et qui sont des personnages qui sont soit attirés par le pouvoir, soit par la mégalomanie, soit par l'individualisme. Donc ils représentent aussi cette partie-là, quoi. Donc oui, c'est ceux qui condamnent la nature parce que ça les arrange, en tout cas.
Mowgli, je te présente Balou.
Ma vie est slow. Je mange bio à mon tempo. Prends ta vie slow.
Ce spectacle s'adresse à toute la famille. Dans la salle, parents et grands-parents accompagnent des enfants à partir de l'âge de 5 ans. Que peuvent retenir ces derniers du message véhiculé par le spectacle ? Tom Almodar nous répond.
Balou est le meilleur ours de toute la jungle.
Faut dire qu'on n'est plus très nombreux. Mais merci, Bagheera.
Je sais évidemment, tout ce que l'on raconte dans les chansons ou même dans les textes, tout n'est pas forcément compris par les enfants. Maintenant, ce qui est drôle, c'est que nous, en tant que comédiens sur scène, on a aussi ce retour en direct de certains enfants qui demandent à leurs parents « Mais maman, ça veut dire quoi ? Pierre d'Alain, qu'est-ce que c'est ?» Enfin, plein de questions comme ça où on se dit « Bon, y a quand même, les enfants quand même captent des choses. » Et même s'ils captent pas tout, on sait que ils ont la curiosité de savoir qu'est-ce que c'est ça, et du coup on se dit bon, le message passe quand même et ils ressortent en tout cas, ils en ressortent grandis en tout cas.
Si au départ quelques réticences ont pu se faire sentir dans le public face à cette interprétation du Livre de la Jungle, au fil des années les réactions ont évolué très positivement, nous a confié l'artiste, avec un sujet, notre planète, qui intéresse de plus en plus les grands et les petits.
Et
Cette version écologique du Livre de la Jungle est donc à voir au Théâtre des Variétés à Paris jusqu'au mois de février 2021. Toutes les informations concernant les horaires et les jours de représentation sont à retrouver sur le site du théâtre www.theatre-des-varietes.fr. Il est 8h20.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Suite en la mineure de Robert Devizé dans cet arrangement pour guitare. Un court extrait d'Aranjuez, le nouvel album du guitariste Thibaut Garcia qui vient de paraître chez Warner Classics. Alors ce soir, exceptionnellement pas d'opéra à 20h. Nous en parlions tout à l'heure avec le claveciniste Justin Taylor. Ce sera la deuxième soirée de ce week-end consacré à l'intégrale des concertos pour clavier de Jean-Sébastien Bach qui vous sera proposé. Concert qui se tient dans le cadre de ce week-end ici organisé à Radio France. Vous entendrez donc notamment l'ensemble Ossonia et Frédéric Haas que je vous propose d'écouter tout de suite. Frédéric A, c'est son ensemble Ossonia ici pour l'Allegro, premier mouvement du concerto pour clavecin en ré mineur, BWV 1052 de Jean-Sébastien Bach, musicien retrouvé ici à la Maison de la Radio à 18h30 si vous ne savez pas quoi faire en fin de journée, ou alors bien évidemment à 20h sur France Musique.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Depuis des millénaires, luthiers et facteurs d'instruments se nourrissent de bois rares, d'ivoire, de cuir, d'écailles. Mais depuis 2017, une norme émise par la CITES, qui est la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, bien complexifie grandement le commerce de ces matériaux précieux. Le secteur de la musique n'était évidemment pas le premier visé par cet objectif louable de protection de la biodiversité, mais on est réellement impacté. Alors, quels sont les grands défis pour la facture instrumentale? Comment le monde de la lutherie s'est-il depuis adapté? Quel sera le bois de demain? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir ce matin Fanny Rerménard. Bonjour Fanny.
Bonjour.
Vous êtes luthière et vice-présidente de la Chambre syndicale de la facture instrumentale. La France, c'est un grand pays pour la lutherie.
La France, oui, c'est un grand pays pour la lutherie. La France a une longue histoire avec la lutherie. La France a été particulièrement importante pour l'élaboration et la conception des instruments de musique tels qu'on les connaît aujourd'hui, en particulier au tournant du 18e et tout au long du 19e siècle. La France reste un grand, grand pays de lutherie avec des spécialités, les instruments avant, c'est vraiment notre fer de lance. Les clarinettes, les saxophones, les hautbois résonnent dans tous les orchestres du monde.
On a une idée du nombre de luthiers qui travaillent sur ce territoire?
Le nombre de personnes dans le monde des instruments de musique, on va compter un petit peu large, on est à peu près 4500 personnes, il ne faut pas que je dise 5000, mais 4500 c'est à peu près juste. On est encore un peu en train de dénombrer. Juste pour revenir, il y a les instruments avant, il y a aussi les archets, pour lequel et qui est une vraie spécialité française. Et puis évidemment, tous les autres instruments sont produits en France. Après, je vais me fâcher avec mes camarades, je ne les cite pas tous, donc je ne vais pas les citer tous. Mais
voilà, tout le monde est là. Je vais vous demander quelques exemples, effectivement, parce que la première chose à laquelle on pense quand on associe lutherie et écologie, c'est bien évidemment au bois qui est largement pris en compte dans ce que je viens d'évoquer, cette fameuse convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacées d'extinction, qu'on va résumer avec cette appellation CITES tout au long de cette interview. Ces normes qui complexifient le commerce et qui impactent grandement aujourd'hui la lutherie. Je posais la question, comment la lutherie s'adapte-t-elle? Peut-être donnez-nous un exemple d'une essence, d'un bois exotique qui devient de plus en plus difficile à utiliser.
Alors, je vais évoquer le palissandre. En effet, la CITES, en 2016, a décidé de protéger toute la famille des bois de palissandre et l'a fait très largement. Donc, elle a classé tout le genre, donc il y a 300 espèces, et elle a classé jusqu'aux produits finis, ce qui veut dire que les instruments de musique étaient impactés. Alors, c'était pas une interdiction de commerce, mais juste, il fallait un permis pour chaque passage de frontière. La famille des palissandres, en fait, c'est une famille dont les instruments de musique sont globalement petits consommateurs, mais on en trouve dans absolument tous les instruments de musique. Donc, c'était un sujet formidablement fédérateur pour nous, je veux dire, qui impactait autant les facteurs d'instruments que les musiciens, parce que obtenir un permis à chaque fois qu'on passe une frontière, c'est juste dément. Et donc, pendant 3 ans, puisque c'est des cycles de 3 ans, nous avons négocié. Alors, la facture instrumentale française a été une voix très importante dans ce débat, mais on s'est associé avec les autres qui étaient présents et qui étaient le monde des instruments de musique américains, notamment le monde des guitares américaines qui étaient très présents, et on a constitué une coalition internationale avec également les représentations des orchestres et des musiciens pour porter notre voix. Et au bout de 3 ans, en août 2019, on a obtenu quelque chose d'incroyable, c'est que cette instance qui s'occupe de protéger les koalas, les dauphins et les orchidées a inclus dans son vocabulaire le mot instrument de musique avec une définition issue de la France de ce que c'est qu'un instrument de musique, très barbante, sans aucun intérêt, mais grande fierté personnelle, et surtout une exemption de permis pour les instruments finis. Évidemment, tout le bois brut ou semi-fini continue à avoir besoin, elle doit être régulé parce qu'on veut que cette espèce soit protégée. Mais en revanche, nos instruments de musique, quand ils contiennent du palissandre, peuvent circuler librement.
Et effectivement, cette norme s'adressait en priorité à la construction, à l'ameublement et non pas aux instruments de musique dans un premier temps, évidemment. Il y a énormément de choses dont j'aimerais parler ce matin avec vous, Fanny Herrer-Ménard, notamment de la consommation. Vous parliez tout à l'heure du peu de palissandre présent dans les instruments. On a une idée par an du nombre d'arbres que cela concerne?
Alors, globalement, alors, oui, mais non. Donc, je ne vais pas pouvoir vous parler de la consommation totale pour tous les instruments de musique, mais on va faire un focus sur nos instruments avant, puisque c'est un dossier sur lequel j'ai beaucoup travaillé et qui était de grande importance pour nos fabricants français. On a fait le décompte de combien d'arbres il fallait pour fabriquer tous les hautbois et les clarinettes du monde qui sont faits dans cette espèce qui ressemble à de l'ébène, mais qui est ou l'ébène du Mozambique, qui est le bois de grenadille. Et il faut, pour fabriquer, y compris les instruments chinois, 1500 arbres par an, ce qui est en fait un volume très, très peu important.
Et effectivement, je pense aussi au pernambouc dont on parlera tout à l'heure pour les archetiers. Je crois qu'il faut un seul pernambouc par archetier sur toute une carrière. Donc effectivement, on ne parle pas de consommation massive.
Absolument.
Bien évidemment. Les fabricants peuvent finalement aussi devenir un acteur dans la survie d'une essence.
Oui, c'est quelque chose qui est dans l'ADN en fait des luthiers, de beaucoup d'artisans, c'est d'être raisonnable et raisonné sur son utilisation des matériaux. Tous les luthiers sont des amoureux du bois et personne n'aurait envie de gâcher une belle pièce de bois qui arrive. Mais il a fallu aller un petit peu plus loin et c'est vrai que travailler 3 ans à la CITES avec les grandes ONG qui protègent l'environnement, la lutte contre la déforestation,
ça a créé des collaborations.
Oui, absolument. Et puis des prises de conscience. C'est-à-dire que là, en fait, même si on est petit consommateur, on est responsable de ce qu'on fait et on peut être des acteurs constructifs pour la reforestation et pour la lutte contre la désertification de ces territoires. Et en France, puisque nous avons cet intérêt particulier pour les clarinettes et les hautbois, on s'est intéressé à une association qui fait de la replantation. Alors, ils nous ont pas attendu. Hein. C'est une association qui a plus de 20 ans, qui s'appelle African Blackwood Conservation Project, ABCP, qui est basée en Tanzanie, parce que cet arbre pousse dans 2 pays, en Mozambique et en Tanzanie, et qui font un extraordinaire programme de replantation avec de l'éducation, ils ont à la fois des pépinières, parce qu'il faut faire pousser les plants, puis ils font des programmes de replantation en association avec des communautés, avec des écoles, parce que ces arbres, il ne s'agit pas juste de les planter, mais il s'agit de ce qu'ils vivent longtemps, puisque pour utiliser un arbre, il faut 80 ans.
Donc ça se passe sur plusieurs générations, c'est
voilà,
du projet à long
donc
terme.
C'est vraiment un engagement sur 3 générations au moins, et donc il faut créer cet intérêt particulier pour ces plantations, et c'est ce que fait cette association. Et le monde de la facture instrumentale, en fait, s'est engagé à apporter des fonds de manière régulière. Là, c'est ce qu'on est en train de construire en ce moment, c'est d'engager des programmes à moyen terme pour les soutenir et pour qu'ils aient une visibilité pour pouvoir pérenniser leur activité.
Thank you.
les premières mesures du Scherzo, extrait de la Symphonie du Nouveau Monde d'Antonin Dvorak, choisi par notre invitée ce matin, Fanny Rerménard, luthière, vice-présidente de la Chambre syndicale de la facture instrumentale. Nouveau Monde, c'est un peu ce que vous essayez de construire à votre manière en ces temps bouleversants, Fanny.
Oui, c'est une époque compliquée pour le monde de la musique, compliquée pour nous. Les semaines se suivent avec des nouvelles difficiles. Et c'est vrai que on ne peut que construire, reconstruire ce qui se déconstruit. Et effectivement, on essaie d'être acteurs pour aller de l'avant et construire un nouveau monde, j'espère, encore mieux et
meilleur,
plus passionnant.
Et continuer à développer ces initiatives déjà en place, qui existent. Je pense à One Tree Planted, association soutenue par l'association professionnelle des luthiers artisans en guitare et autres cordes de pincée, qui développe des projets de replantation. Je crois que 4 millions d'arbres ont été plantés en 2019. Il y a aussi l'International Pernambuco Conservation Initiative. On parlait du Pernambouc, ce bois utilisé par les archetiers. Eh bien, ce programme de replantation monté il y a 30 ans est lui financé par les archetiers du monde entier. Il y a une autre question qu'on se pose, parce que ça, eh bien, c'est mettre en quelque sorte un pansement ou développer ou maintenir, on va dire, ces arbres dans certaines zones du monde, zones géographiques. Mais est-ce que la lutherie ne pourrait-elle pas s'accommoder d'autres bois, des bois peut-être plus locaux ?
Alors bien sûr, ça c'est une... En fait, la lutherie a d'abord fonctionné avec des bois locaux. À partir du 18e, on a commencé à travailler de plus en plus avec ces bois exotiques qui ont des qualités tellement extraordinaires. Et c'est pas très loin de l'ADN des luthiers de travailler avec les bois locaux. Et il y a en ce moment, notamment dans le monde de la guitare. La guitare, c'est l'instrument le plus produit au monde. C'est pour ça que
c'est
important.
Bon,
c'est un vecteur important. Et dans le monde de la guitare, il y a des projets. On pourrait évoquer un projet qui s'appelle Local Wood Challenge, qui a été monté par une absolument formidable association européenne qui s'appelle European Guitar Builder, l'association des fabricants de guitares européens. Et en fait, à l'occasion des salons qu'ils organisaient, ils faisaient une espèce de défi des luthiers d'arriver avec des guitares faites avec les bois locaux, en devant expliquer d'ailleurs quelles étaient les essences, d'où elles venaient. Et ils ont suscité une vague de construction d'instruments extrêmement intéressants et acoustiquement extrêmement intéressants. Et c'est une initiative intéressante. Simplement, les arbres sont les arbres. Et en fait, les problèmes rencontrés sur la pérennité et l'agroforesterie en général, en fait, sont aussi présents en Europe. Et donc, on ne peut pas penser qu'on peut faire basculer notre consommation de bois exotique sur les bois européens sans réflexion. C'est juste pas possible. Donc, il faut composer avec tout. Mais c'est extrêmement intéressant de s'intéresser aux espèces locales, mais aussi pour préserver ces espèces locales. En fait, on est tout à fait dans les mêmes logiques.
Dans les mêmes problématiques. Fanny Rerménard, existe-t-il des filières de recyclage ? Je me posais la question, à savoir... des instruments qui traînent au fond d'un grenier, qu'on n'utilise plus, qui ne sont tout simplement plus en état ou qui nécessiteraient trop de travail pour les remettre en état. Est-ce qu'on peut déposer nos instruments quelque part pour récupérer un bout de bois par-ci, une touche par-là ?
Alors, les luthiers, moi je suis une luthière du quatuor, rien n'est gâché chez un luthier, tout se réutilise, on a tous des boîtes, des caisses, des stocks de petites pièces de bois qu'on réutilise indéfiniment. Je fais beaucoup de reméchage d'archets, toutes mes cales sont faites à partir des chutes de chevalet et autres, les poussettes, la partie en cuir, c'est les chutes de mes amies relieuses que je vais solliciter régulièrement, quoi. C'est vraiment dans notre ADN. Après, sur cette question plus globale qui est le recyclage des instruments de musique, en fait, c'est une question... Il existe des projets, il existe des associations, mais ça reste extrêmement ponctuel. Et c'est un vaste sujet que nous devons travailler. Nous avons doté la France de packs instrumentaux, d'instruments de très faible qualité ces 40 dernières années, principalement issus de Chine, qui sont, on a vraiment des espèces de cimetières des éléphants dans les conservatoires et dans d'autres lieux. Et il va falloir penser à ça, parce que ça, l'ère de l'instrument jetable, je pense que c'est inadmissible. Et il y a quelque chose à construire à la fois sur qu'est-ce qu'on fait avec ces instruments qui existent et comment fait-on les instruments d'études de demain pour que ça ne soit pas dans cette, du tout dans la même logique. Avec des instruments peut-être de filière européenne, avec du bois certifié, et toute une réflexion autour de ça qui doit s'engager. Elle ne pourra pas s'engager juste du fait des luthiers. On y travaille. Personnellement, je travaille sur un projet de ce type-là.
Mais c'est aussi un sujet dont les musiciens doivent s'emparer.
C'est un sujet dont les musiciens, quand on parle des instruments de musique, ce sont les grands commanditaires pour les instruments d'études que peuvent être l'État, les collectivités territoriales. Et puis, d'une façon plus globale, cette question-là, c'est une question pour les musiciens. Effectivement, en fait, il faut que les musiciens se posent la question, quand ils ont un instrument, de savoir de quoi il est fait, d'où ça vient. Et c'est vrai qu'il serait très, très important que s'inscrive maintenant dans la logique des relations entre les luthiers et les musiciens, que chaque fois qu'un musicien arrive et voit un instrument, il pose la question au luthier de savoir quel est ce bois, d'où vient-il. Parce que nous, ça nous obligerait à pouvoir répondre systématiquement à ces questions, ce qui fait que nos fournisseurs seraient obligés de pouvoir répondre à nos questions. Et rien qu'en faisant ça, on aura une filière beaucoup plus durable et beaucoup plus éthique.
Merci beaucoup, Fanny Herménard, d'être venue nous parler de ce sujet important ce matin sur France Musique. On vous retrouve très bientôt. On va suivre ce sujet dans cette émission. On espère avoir de vos nouvelles très bientôt. Je vous souhaite une très belle journée. Encore merci.
Et merci beaucoup de l'invitation.
É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do cão,
é o nó da madeira.
Canga, candê,
é uma tita pereira.
É madeira de vento,
da ribanceira.
É um mistério profundo,
é o queira ou não queira.
É o vento ventando, é o fim da ladeira. É a viga, é o vão, festa da comida.
É a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira.
É o pé, é o chão,
é a mastradeira.
Passarinho na mão,
pedra de atiradeira.
É uma ave no céu,
é uma ave no chão.
É um regato, é uma fonte,
é um pedaço de pão.
É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto desgosto, é um pouco sozinho. É um estrepe,
é um prego,
é uma ponta,
é um ponto.
É um pingo,
pingando.
É uma conta,
é um conto.
É um peixe, é um gesto.
É uma prata brilhando.
É a luz da manhã.
É o tijolo chegando.
É a lenha, é o dia. É o fim da picada. É a garrafa de cana. Estilhaço na estrada.
É o projeto da casa. É o corpo na cama. É o carro enguiçado. É a lama, é a lama.
É um passo,
é uma ponte,
é um sapo,
é uma rã,
é um resto
de mato,
na luz
da manhã.
São as águas de março fechando o verão.
É a promessa de vida no teu coração.
Aguas de Março, Antonio Carlos Jobim ici avec Elis Regina pour accueillir notre chroniqueur préféré du 8h50 du samedi sur France Musique.
Chère auditrice, chère auditeur, chère auditrice, chère auditeur.
Et cet auditeur, c'est Christophe Chassol. Bonjour Christophe.
Eh bien bonjour Saskia, ça va bien?
Mais très bien, et vous?
Oui, oui, fort bien, fort bien.
De quoi parlons-nous ce matin?
On va parler d'un compositeur très influent à Hollywood depuis les années 50. C'est Alex North et le compositeur de la musique de Spartacus. C'est parti.
Ça plonge tellement rapidement dans une certaine ambiance.
Moi, ça me fait penser en fait à Taxi Driver, même si ça date des années 50.
Mm-hmm.
C'est la musique d'un tramway nommé Désir, et d'Elia Kazan. Donc Alex North était un compositeur de pièces de théâtre dans, à New York avant les années 50. Et Elia Kazan l'a fait venir à Hollywood pour faire la, sa première musique de film, c'est ça, c'est Un tramway dans mes désirs. Alors moi je l'aime beaucoup beaucoup Alex North parce qu'il a influencé des gens que j'aime beaucoup, comme Jerry Goldsmith. Il fait partie de ces gens qui étaient des modernistes à Hollywood, qui un peu des gens de l'avant-garde qui disaient du jazz et des dissonances avec de l'orchestre et ce qu'on appelle encore une fois
le third stream,
le troisième courant, le jazz dans le concert hall. Mais il utilise plein de polyrythmies, lui c'est un fan de Russie quoi. Il est même le limite bolchevique tu vois dans ses années de maccartisme. Lui il est parti en Russie. Il adore Shostakovich, Prokofiev, etc. Et le jazz, voilà, donc c'est ça le combo, quoi. Jazz, Shosta, Proko. Et donc en fait, voilà, c'est ça, Alex North, c'est Duke Ellington plus Shostakovich, on va dire. Et donc il était très admiré par des gens comme John Williams, Jerry Goldsmith. Il donnait beaucoup de conseils, c'était un mec très très gentil, très sympa, il paraît. Voilà.
Faut se bien de le souligner aussi. Hein.
Bah oui, non, c'est vrai. Et puis, moi je voulais vous parler particulièrement de la musique de Spartacus, mais je pourrais vous parler de plein d'autres musiques qu'il a faites, comme Cléopâtre, par exemple, en 63. Alors, j'ai noté quoi d'autre? Capeur de Virginia Woolf, en 66. L'honneur des Prix de Dix, en 85. Good Morning Vietnam, même, ce film avec Robin Williams, en 87. Et Les Misfits aussi. Et il y a un film qui s'appelle Bad Seeds. Alors je l'ai pas vu, mais je connais très bien la musique. Et c'est de 56. Et c'est un des premiers films où il y a un enfant maléfique, la mauvaise graine, Bad Seeds. Et je voudrais qu'on écoute juste une citation pour montrer le modernisme et les dissonances chez Alex North. Il fait une citation, vous allez reconnaître tout de suite.
Un peu déglingué, hein, cet ami Pierre.
Je vous ai fait un petit montage pour qu'on entende la fin. C'est tordu, hein?
Ah oui, c'est tordu. Mais ça se finit bien.
Voilà. Alors, on va aller dans Spartacus, donc ce film génial de Kubrick. Enfin, génial. Moi, je l'aime bien, mais c'est pas Kubrick. Il l'adorait pas ce film. Il a fait un remplacement là-dessus. Il l'a un peu renié après ce film. Il n'a pas choisi Alex North comme compositeur non plus. Et d'ailleurs, il va rejeter la musique d'Alex North sur 2001, qui a fait tout un score hein, et qui a été rejoué, ressorti chez Vares Sarabande, parce que réenregistré en 93 par Jerry Goldsmith. Il est génial d'ailleurs. Quand il allait voir le film avec sa femme North, ils ont vu Strauss. Tu sais, Zarathustra, ils ont vu ça et Kubrick n'avait pas dit qu'il n'avait pas pris sa musique. Bon, petite anecdote. Et donc, on va écouter le love theme, le thème d'amour de Spartacus. Donc, c'est un peu l'idée que se fait Alex North de ce que pouvait être une chanson pop à l'époque, dans les années 60. On écoute. Très connu, justement. Ah bon? Oh, j'adore, en fait.
Qu'est-ce que c'est langoureux.
Ouais. Oh, j'adore. Donc le thème revient beaucoup, beaucoup dans le film. Il a pas mal de sauce. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Bah oui, en fait, Spartacus, cet esclave joué par Kirk Douglas, qui donc en 73 avant Jésus-Christ. Qui fomente une rébellion et puis qui se fait crucifier finalement. Cet esclave, c'est un peu Alex North. Il se retrouve dedans et c'est pas un héros militaire, c'est un héros. Alors je cite John Williams qui parle d'Alex North et qui dit que pour lui c'est un héros de la charrue et de la pelle. pas un héros militaire. Et je suis bien content parce que, enfin voilà, ça me prouve que ce gars aimait la Russie dans les années 50, quand, aux États-Unis. Bref, qu'est-ce que je peux vous faire écouter ensuite? Il y avait Forest Meeting ou Vesuvius Camp. Je préfère Vesuvius Camp parce que c'est vraiment du Copland. Il a été élève de Copland, Alex North, et bah voilà, on va entendre ça, la symphonie américaine.
On sent bien l'influence, effectivement, ouais. Professeur.
Ça, j'adore ça, écoutez.
Mes amis, ça je suis amuré.
Christophe, on a encore le temps pour un dernier extrait.
Un dernier extrait. Bon, alors, je voulais vous passer le final farewell, c'est-à-dire l'adieu final où on retrouvait le thème, le love theme, mais en fait, je vais vous passer le. Un extrait d'une chanson qu'il a écrite, alors je sais, en 55, dans un film qui s'appelle Unchained, qui est un film de prison où des gars s'évadent. Et il a écrit le morceau qui s'appelle Unchained Melody. Et lui, il n'a pas écrit les paroles, mais voilà, c'est devenu un hit. Alors c'est pour vous dire que ce type qui est très moderniste comme ça pouvait écrire dans les années 50, donc ce genre de morceau. Et vous allez le reconnaître tout de suite. C'est Alex North aussi.
Ah
oui. Oui, c'est lui.
Ça, alors.
Bah, j'ai découvert ça hier soir. Hein, je savais pas.
Ah, ben, pas du tout.
C'est chanté par les Righteous Brothers là.
Et on va garder encore pour les quelques secondes qu'il nous reste pour terminer cette émission. Merci beaucoup, Christophe, pour cette chronique, pour écoute avec toujours autant de plaisir sur francemusique.fr. En attendant de vous retrouver avec un nouveau sujet la semaine prochaine. Une poignée de secondes pour bien parler du concours du jour qui va beaucoup intéresser Gabriel Oliver Aguillon qui est avec nous, je pense. Je vous proposais ce matin des places pour aller voir au cinéma La Dame aux Camélias, chorégraphiée par John Neumeyer et interprétée par les étoiles du Bolchoï. Il fallait deviner le pays, le nom du pays où se trouve le théâtre du Bolchoï. Bonjour. La Belgique, la Martinique ou la Russie, Gabriel?
Surtout que la Martinique, c'est vraiment un pays en plus. Hein.
Mais évidemment. C'était ouais, là le piège.
Votre président, il avait appelé la Guyane une île.
C'est vrai?
Ouais.
Ah ben voilà.
Bon, en tout cas, ça nous a bien donné envie de danser un slow.
Ça. Ah oui, c'est sûr. Bon, ben la réponse, c'était la Russie, hein, pour ceux qui n'auraient pas soulevé. En tout cas, les gagnants recevront les places de cinéma dans leur boîte aux lettres. Merci à toute l'équipe, Marie Ferdinand, David Travailleur, Maëlle Larfassor et Audrey Guélil. Et puis, merci à vous, chers auditeurs. Je vous laisse entre de bonnes mains. À très bientôt, à la semaine prochaine sur France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.